BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On poursuit ce bal des résultats avec Philippe Crouzet, président de Vallourec. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On verra que vous avez fait des annonces, notamment une annonce d'augmentation de capital avec un impact sur le cours de bourse. Donc on verra, on va développer ça dans le journal. Et puis aussi ensuite, pendant de longs moments. Et puis après, c'est Nicolas Théry, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui viendra aussi nous décortiquer ses résultats. Puis avec lui, bien sûr, on parlera crédit immobilier, taux bas, est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire. On verra tout ça. Pour l'instant, c'est Audrey Maubert donc, qui nous apporte toute l'actualité. Bonjour Audrey.
Et bonjour Edwige, bonjour à tous. Le chantier des impôts de production, Bercy s'est engagé à les baisser, ce que réclament ardemment les industriels. Selon les informations de BFM Business, eh bien, le gouvernement s'attaquera d'abord à la C3S. Ça représente 3,6 milliards d'euros, une suppression progressive à partir de 2021 et ce, sans contrepartie. L'impact de l'épidémie de coronavirus dans les performances des entreprises. Plusieurs illustrations aujourd'hui à la lecture des comptes annuels. Air France KLM estime à 150-200 millions d'euros le manque à gagner d'une suspension des vols vers la Chine entre février et avril. Schneider Electric, de son côté, redoute un impact négatif de 300 millions d'euros sur son chiffre d'affaires du premier trimestre. Il vise toutefois une compensation ensuite. Schneider Electric qui a touché un plus haut ce matin, dopé par des résultats records pour 2019. Schneider fait mieux sur sa marge opérationnelle. On parle aussi d'Accor aujourd'hui qui affiche un bénéfice net 2019 en hausse de 3,8% à plus de 464 millions d'euros. Des difficultés en Asie-Pacifique qui génèrent désormais un tiers de l'activité. Quant à l'impact du coronavirus, c'est bien le PDG du groupe hôtelier Sébastien Bazin ce matin dans Good Morning Business. Le chiffre pour l'heure, eh bien, à 5 millions d'euros d'absence de redevance. Accor, une exposition mesurée en Chine. On l'écoute.
C'est 10% du réseau d'Accor. Ah ouais. C'est moins de 3% de notre chiffre d'affaires.
D'accord.
On a fermé 20% du parc hôtelier, c'est-à-dire une soixantaine d'hôtels sur les 300 qui sont là-bas. Et une grande partie des hôtels sont mis à disposition des autorités chinoises pour les accompagner, pour héberger toutes les équipes médicales, pour donner de l'alimentaire pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. On est dans 100 pays. Hein.
Ouais.
Je peux vous le dire, chaque année, il y a une vingtaine de pays où ça ne se passe pas bien. C'est jamais ce que je prévois. Et puis, il y a d'autres pays où ça se passe mieux. Donc, heureusement, le groupe est tellement diversifié qu'on est capable, les dernières, entre ce qui s'est passé sur les grèves, sur le Brexit, sur les, sur ce qui est le Chili, sur le Pérou, sur le feu en Australie, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires qu'on a réussi à pallier à ce qu'on a pu faire dans d'autres pays.
Sébastien Bazin, le PDG du groupe hôtelier Accor ce matin dans Good Morning Business. Des valeurs à suivre nombreuses hein, aujourd'hui en séance. Bouygues, on y reviendra dès 12h30. On suivra également Vallourec, sanctionné ce matin des résultats 2019 en hausse, éclipsé par l'annonce d'une augmentation de capital de 800 millions d'euros pour renforcer son bilan. Le président de Vallourec, Philippe Crouzet, est votre invité Edwige dans quelques minutes. Et puis on termine avec la croissance du PIB dans la zone OCDE ralentit à 0,2% au quatrième trimestre, 0,4% au trimestre précédent. Selon les chiffres provisoires publiés à l'instant, le PIB s'est fortement contracté au Japon, en Italie et en France de moins 0,1%. 1%. On termine avec le CAC 40, ce flash à la mi-journée avec eh bien, une tendance qu'on va voir précisément pour cette séance. On y reviendra dans un instant. Moins 0,24%. On est toujours au niveau de plus haut à 6096 points.
Merci Audrey. Bien sûr, on vous retrouve à 12h30 dans un instant. Vous l'avez dit, c'est Philippe Crouzet, le patron de Vallourec qui est notre invité. Il y a pas mal de questions depuis la publication de ses résultats. Tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Philippe Crouzet, le président de Vallourec, président du directoire de Vallourec. Il faut le dire vite, parce que changement de poste le 15 mars prochain. Philippe Crouzet, merci d'être avec nous. Vous avez publié vos résultats ce matin, beaucoup, beaucoup d'actualités. Des résultats, on va rentrer dans le détail ensuite, mais un redressement, des signaux positifs. Mm-hmm. Mais il y a un gros mais. Il y a un gros mais, c'est que vous avez annoncé une augmentation de capital de 800 millions d'euros et que du coup, votre titre, il plonge à la Bourse de Paris, même s'il se redresse un tout petit peu. parce que il y a beaucoup d'interrogations en disant pourquoi faire, pourquoi il y a un an vous avez dit que c'était hors de question, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Rouzet, à votre avis c'est peut-être le moment de nous expliquer.
Oui, il y a un peu un lien entre les deux. Enfin, nos résultats opérationnels s'améliorent, comme vous l'avez dit, on est clairement en avance sur notre plan de marche, puisque sur l'ensemble de l'année, finalement, on aura consommé beaucoup moins de cash que ce que tout le monde attendait, une quarantaine de millions à peu près. On avait consommé près de 500 millions de cash en 2018, donc une très forte amélioration de notre performance opérationnelle. Et donc, assez logiquement, pas mal d'investisseurs nous ont dit, écoutez, il faut que vous réfléchissiez à votre bilan. Vous avez beaucoup de dettes encore, oui. À peu près 2 milliards, et donc vous consommez énormément de votre cash en frais financiers. Nous avons près de 250 millions d'euros de frais financiers, autant d'argent qui va ni aux actionnaires, ni aux investissements. Donc c'est comme ça que progressivement, on a réfléchi à la question de savoir si c'était pas le moment de compléter le redressement opérationnel par un volet financier. C'est ça l'origine de l'augmentation de capital.
Oui, mais alors là, vous voyez la réaction des marchés, parce que vous dites...
Il y a une réaction technique, c'est normal, c'est une grosse opération de capital, donc il y a un effet de dilution, et donc une réaction de ce type est parfaitement normale. Je dois dire d'ailleurs qu'elle est maintenant tout à fait raisonnable par rapport à l'ampleur et à l'importance d'augmentation de capital. Il y a quelques shorts, bien sûr, qui jouent dans ce genre de circonstances, mais fondamentalement, l'idée, c'est bien de rééquilibrer notre bilan, de façon à ce que les actionnaires profitent autant que les créditeurs des progrès de la société. C'est ça la logique. L'opportunité est donnée par les droits de souscription préférentiels aux actionnaires actuels d'accompagner cette augmentation de capital et de profiter du redressement.
Sur quelle base, sur quel prix?
Ça, ce sera fixé en fonction du cours de bourse après l'Assemblée Générale, puisque bien sûr... Le 6 avril, et dans les semaines qui suivront, en fonction bien sûr de la situation de marché, et sauf catastrophe, on lancera l'augmentation de capital à ce moment-là. Encore une fois, les droits préférentiels de souscription permettent...
Sauf catastrophe, pardonnez-moi, mais oui. Vous me tendez une perche, donc je la saisis. Sauf catastrophe, c'est quoi? La catastrophe, ça serait quoi?
Mais sur une catastrophe globale, mondiale.
Pas par rapport à l'évolution du titre.
Non, il n'y en a pas par rapport à l'évolution du titre. On est toujours obligé de faire cette réserve de ce qui peut se passer sur la macroéconomie, qui pour le moment, effectivement, ne nous a pas beaucoup touchés, comme vous le voyez, en apparence, puisque si nos résultats sont bons, c'est le résultat d'éléments positifs et d'éléments moins positifs, mais on a justement démontré notre capacité à absorber, par exemple, un ralentissement assez fort aux États-Unis en deuxième partie d'année.
On va revenir encore une fois, sur cette augmentation capitale. Oui. Évidemment, vous parlez de catastrophe, mais ça va dépendre de l'évolution du cours de bourse, forcément.
Oui, enfin l'évolution du cours de bourse, honnêtement, quand je vois aujourd'hui la réaction du cours, après évidemment l'effet de surprise des premières minutes, on voit qu'on est dans quelque chose qui est assez raisonnable. Encore une fois, on propose une augmentation de capital de 800 millions, ce qui est très important par rapport à la capitalisation boursière.
Ça fait beaucoup, à 2,13 €.
Encore une fois, dans ce genre d'opération, on peut s'attendre à des chutes plus importantes, au moins au début. Ce que je crois l'évolution du cours depuis ce matin montre, c'est qu'il y a progressivement la compréhension de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout...
Ça rechute un peu là, c'est pour ça en fonction de vos propos, il faut peut-être les éclaircir.
Je reviens. On a fait une augmentation de capital en 2016, vous vous rappelez, là c'était en plein milieu de la crise du pétrole et du gaz. Et très clairement, le produit de cette augmentation de capital, en 2016, était vraiment destiné à compenser des pertes qui étaient réelles, actuelles, et dont nous savions qu'elles allaient durer un certain temps. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment pour accompagner le redressement opérationnel. Encore une fois, ayez en tête que nous versons exactement 244 millions de frais financiers cette année pour 150 millions d'investissements. Ouais. Donc ce déséquilibre-là, on doit le corriger.
Mais maintenant, pourquoi une augmentation de capital? Vous avez pu restructurer votre dette? L'occasion.
Justement, les taux qui nous sont appliqués aujourd'hui ne sont pas bas puisqu'on a une mauvaise notation à cause de cette structure du bilan. Donc l'un des éléments positifs de l'augmentation de capital, c'est de permettre de corriger cette notation. D'ailleurs, elle a été immédiatement corrigée. Standard & Poor's a corrigé pas plus tard qu'hier soir, en fait, immédiatement, notre notation. Et elle sera à nouveau corrigée après la réalisation effective de l'augmentation de capital. Et c'est par ces corrections progressives qu'on baissera le coût de notre dette. Mais aujourd'hui, le coût de notre dette est très élevé. Compte tenu de notre notation très défavorable.
Le BPI France, donc, qui est votre actionnaire, on sait qu'il a pris au moment justement des grosses turbulences que vous avez traversées, a dit qu'il allait suivre votre actionnaire à hauteur de 14%, 11%, 14,6%, et Nippon Steel 11%. Justement, il a dit qu'il n'allait pas suivre complètement. Est-ce que vous pouvez
Nippon
nous préciser
Steel, qui est une très grande société dans le monde de l'acier, un géant dans le monde de l'acier, a annoncé de très mauvais résultats il y a quelques jours, et également de très gros write-offs, c'est-à-dire vraiment, il a un une situation financière qui est complexe. Et donc, je dois dire que j'apprécie beaucoup, et nous apprécions beaucoup, qu'ils soutiennent malgré ce contexte très difficile et qu'ils accompagnent l'augmentation de capital. Ils ont d'ailleurs publié un communiqué très clair de soutien hier soir.
L'augmentation de capital, elle sera uniquement consacrée, justement, à la restructuration de la dette.
Oui, oui. À des endettés. Réduire l'endettement, absolument.
Oui, d'accord. Non, mais c'est important de, de le dire aussi. Les résultats, si on regarde le chiffre d'affaires, hausse de à 4 milliards 2 pour le chiffre d'affaires, plus 6,5, 6,4.
Oui.
Où est-ce que ça se fait, la croissance aux États-Unis?
Alors,
enfin,
Non, justement. Ce chiffre est obtenu, je dirais, malgré un ralentissement assez fort aux États-Unis sur la deuxième partie de l'année. Non, la croissance, c'est vraiment le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et le Brésil au quatrième trimestre qui est très, très fortement reparti.
Oui, non, si je disais ça, c'était un peu de la provocation parce que vous avez expliqué la dernière fois que vous êtes venu, il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Philippe Rouzet nous a dit que ça y est, les États-Unis, ça repart.
Oui.
Et là, quand on voit vos résultats, ça ne repart pas. Donc,
comme on se voit périodiquement, effectivement.
Voilà. Oui. C'est pour ça que je me suis gardé ça en souvenir.
Je crois que je vous redis à chaque fois que le marché américain est extrêmement volatile. C'est celui qui réagit le plus vite aux fluctuations du prix du baril. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les coûts d'investissement sont extrêmement faibles. Fort et impuissant, ça ne coûte même pas 10 millions de dollars aujourd'hui. Alors qu'installer une plateforme au large des côtes du Brésil, ça coûte plusieurs milliards de dollars. Donc, la réactivité, évidemment, dans ces deux cas de figure, c'est deux business models complètement différents. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, le marché américain était très fortement reparti. Ça a tenu d'ailleurs jusqu'au milieu de l'année. Ensuite, il y a eu un affaissement dans la deuxième partie de l'année, mais je peux d'ores et déjà vous dire que depuis le début de 2020, depuis le début janvier, c'est en train de repartir. Donc on est habitué à ces ups and downs, comme ils disent, du marché. Et en tout cas, on s'en sort toujours pas trop mal. Quand même.
Le Brésil est important. Vous avez vu, très grosse usine là aussi. Beaucoup d'interrogations sur le Brésil. Hein. Mm-hmm. On peut dire que les deux points importants, c'est les États-Unis, le Brésil. En tous les cas, c'est.
Enfin, le Moyen-Orient aussi. Hein. On a eu de très beaux succès au Moyen-Orient. Mais alors, pour revenir au Brésil, le Brésil confirme toutes les espérances que nous avons mises dans ce pays. C'est l'endroit du monde où les forages en eau très profonde se développent le plus. C'est le plus gros potentiel. Juste pour vous donner une idée, plus de la moitié des plateformes offshore qui vont être contractées, qui vont être mises en production dans les 10 années qui viennent, vont l'être au large du Brésil. Donc, c'est vraiment énorme. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a non seulement Petrobras qui est en train de décoller, qui va doubler ses installations d'exploration cette année, en 2020 par rapport à 2019.
Toujours c'est en certain, vue dans ces affaires.
Non, c'est terminé.
C'est terminé.
Ça, c'est derrière. Ils sont en train de bien améliorer leur bilan. Donc, c'est eux qui sont en train de décoller très, très fortement. Mais maintenant, un certain nombre de grands acteurs internationaux sont venus prendre pied également au Brésil. Total a été l'un des premiers, mais également Shell, Exxon, c'est beaucoup plus nouveau, donc les Américains viennent aussi, Equinor, l'ancien Statoil, et tous ces gens-là ont des projets très importants. Nous avons gagné tous les appels d'offres de ces compagnies internationales l'année dernière, donc tout ceci, c'est de la croissance pour Vallourec dans les années 2020, 2021, 2022 et même au-delà.
Une question, puisqu'on parle beaucoup de transition écologique, du fait que maintenant c'est les énergies renouvelables qui prennent le pas, qu'il faudra plus, il n'y aura plus d'énergie fossile d'ici à 2050, enfin là aussi on est dans la bataille de chiffres. Qu'est-ce que peut devenir un groupe comme Vallourec? On va rappeler quand même Vallourec, vous êtes le spécialiste des tubes, justement pour l'industrie pétrolière et gazière. Donc j'imagine que vous vous posez aussi la question.
Oui, et non seulement on se pose la question, mais on se prépare à la suite. Donc déjà, comme vous l'avez indiqué, c'est un horizon de temps qui est quand même assez lointain pour le pétrole et le gaz. Je rappelle que même si le jour où la demande de pétrole commencera à baisser, et là on peut avoir des débats infinis, mais nous on considère en gros dans nos modèles que c'est à partir du milieu des années 2030, il faudra continuer à forer très longtemps parce qu'on est en train de sous-investir depuis des années. Donc en fait, même avec une demande qui baisse, l'offre baisse plus vite. Donc il faudra continuer à forer bien au-delà. Mais ça, c'est pour le pétrole et le gaz. Nous avons commencé à explorer d'autres univers, d'autres environnements où on a besoin de tubes pour transporter des fluides corrosifs. Alors, vous allez me dire, quel fluide corrosif ? Il y en a au moins deux qui sont aujourd'hui très excitants pour nos ingénieurs et nos chercheurs. C'est d'une part l'hydrogène.
Vous allez dire, voilà.
Voilà, absolument. Et nous sommes
l'énergie de demain, c'est drôle, c'est vraiment ce qui est en train d'émerger parce que
absolument.
Elle est moins agressive que les énergies renouvelables type éolienne.
Voilà, et comme vous le savez, c'est une matière première qui n'est pas facile à transporter, qui est dangereuse même. Donc, les questions d'étanchéité, de résistance à la corrosion, sur de longues distances parfois, vont être cruciales. Et on est en train d'y travailler et avec un certain nombre de partenaires. Et puis par ailleurs, il y a un autre fluide qui est très très corrosif, c'est le CO2. Une fois qu'on l'a liquéfié, il va bien falloir transporter. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets, on appelle ça le CCUS, Carbon Capture, pour ce qui est des projets en cause, donc qui consisteront à attraper le carbone là où il est produit, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on va continuer à générer du CO2 pour ensuite soit le réutiliser, soit le réenfouir, en tout cas le transporter. Et donc transporter le CO2 sous une forme ou sous une autre, eh bien ça nécessite effectivement des conducteurs qui vont être des tubes, des tuyaux capables de résister à la corrosion. Donc ça, ce sont deux champs, et il y en a d'autres. La géothermie qui est en train de décoller, qui est un domaine où on est déjà présent. C'était assez anecdotique jusqu'à récemment. On faisait beaucoup en Indonésie, en Asie du Sud-Est. Maintenant, ça décolle en Allemagne, par exemple. En ce moment, on a eu un certain nombre de contrats. Tout ceci aujourd'hui, c'est pas des volumes énormes, mais l'important, c'est de prendre position, de devenir la référence technologique, c'est dans notre ADN, devenir avec des solutions innovantes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis progressivement, bah, ça occupera sa place et ça se développera dans le chiffre d'affaires de Vallourec.
Est-ce que vous diriez que, malgré ce qu'on a dit sur la nécessité de cette augmentation de capital, votre endettement, est-ce que vous diriez quand même que là, vous rentrez dans une période où il y a un plan d'économie très fort. Là, il y en a un autre qui se prépare, que vous continuez. Donc, c'était 2016-2020. Ouais. On voit que ça a apporté ses fruits. Mais est-ce que le plan d'économie suivant, il sera aussi drastique que l'autre? Est-ce que vous êtes sorti quand même un peu de l'ornière?
Oui, j'aurais tendance à dire qu'on a fini le gros des restructurations. Ça, c'est très clair. Et là, je passe à mon successeur. Une situation dans laquelle il y a beaucoup d'optimisation encore à faire, parce que quand vous faites du gros, il reste encore en dessous pas mal d'optimisation. C'est assez industriel, c'est assez technique. On va travailler beaucoup plus nos process industriels. On a encore des flux qui sont trop compliqués. Mais les restructurations majeures, et en particulier en Europe, on les a faites. On a annoncé notre dernière fermeture d'usine. J'ai annoncé il y a quelques jours à nos équipes allemandes. C'est une fermeture qui est provoquée par la disparition du marché des centrales thermiques au charbon. Donc c'était inéluctable. On va faire exactement le même traitement humain et social qu'on a fait partout ailleurs dans le monde, au cours de ces restructurations. Mais oui, vous avez raison, le gros est derrière nous. Et encore une fois, l'objet de cette augmentation de capital n'est pas de financer des restructurations majeures, c'est d'accompagner la croissance, le désendettement, et donc la croissance, donner plus de flexibilité au groupe face aux nouvelles opportunités qu'on vient d'évoquer.
Fermeture, vente en France de Florange. Il y a eu là la fermeture d'usine en Allemagne. C'est sur l'Europe que vous faites vos économies, Philippe Crouzet?
Ah non, on a fait beaucoup d'économies également aux États-Unis, et maintenant encore beaucoup au Brésil. Au Brésil, on a des opérations qui sont assez lourdes, qui sont assez complexes. On a une chaîne de production qui est complètement intégrée, puisqu'on commence avec une mine de fer, donc on produit même les matières premières. Et là, il y a encore de la marge pour réduire les coûts. Donc en fait, dans les années qui viennent, les toutes prochaines années, on va avoir le plein bénéfice des économies faites en Europe, qui sont traditionnellement longues à se voir, parce qu'on utilise beaucoup de systèmes de pré-retraite et autres, pour évidemment accompagner socialement ce genre de mesures, et puis complété par beaucoup d'économies encore au Brésil.
Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mesures d'économie, d'autres fermetures en Europe, en Allemagne? Non, l'Allemagne, vous l'avez annoncé, mais en France?
Non, en ce qui nous concerne,
Et le dossier est-il complètement clos sur Florange? Voilà, trois questions.
Ça fait beaucoup de choses. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on avait encore pas mal de choses à faire en Allemagne, mais on est en train de le faire. Hein, de l'ordre de grandeur des suppressions de postes en Allemagne, c'est à peu près 800 personnes sur les 2019-2020, donc c'est tout de même massif. Et au total, à la fin, c'est un peu un hasard arithmétique, mais les baisses d'effectifs en France et en Allemagne seront tout à fait comparables. Et encore une fois, on a fait ça sans perturbation majeure, en traitant chacun individuel. Et
ça fait 1600 personnes quand même.
Oui, au total, plus que ça, même sur l'ensemble de l'Europe. Hein. Oui, sur l'ensemble de l'Europe, ça fait plus. Il faut voir aussi que Vallourec était, lorsque j'ai pris ses responsabilités, était extrêmement exposé à l'Europe. Plus des deux tiers de nos capacités de production étaient en Europe, ce qui était mortel, puisque les coûts de production européens sont importants et puisque l'euro était fort. C'est pour ça que tout mon travail a consisté à rendre ce groupe global, à faire en sorte qu'il ne dépende pas seulement. Voilà, et concentrer l'Europe sur ce qu'elle fait bien, c'est-à-dire les produits les plus techniques. C'est là que nous faisons tous les produits techniques. C'est là que tous les nouveaux produits pour accompagner la transition énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, carbon capture ou hydrogène, tout ça, ça va évidemment naître et se développer en Allemagne, en France. D'ailleurs, tous nos centres de recherche sont en France. On a en fait concentré notre recherche en France. Donc, la vocation de la France et de l'Allemagne, c'est de faire de la valeur ajoutée. Les deux ensembles sont très intégrés. Et puis, dès qu'on a du volume, dès qu'on doit se battre par la compétitivité des coûts, là, effectivement, on fait appel à notre ensemble brésilien et notre ensemble asiatique, c'est-à-dire Chine et Indonésie. Et ça donne de très
On parle beaucoup sur BFM Business de la baisse de l'impôt de production. On sait que c'est évidemment dans les tuyaux, sans faire de mauvais jeu de mots. En même temps, donc c'est la C3S. Est-ce que ces impôts de production, ces impôts productifs qui nous handicapent, notamment par rapport aux entreprises allemandes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous dites banco, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est anecdotique encore?
Non, c'est une bonne nouvelle parce que on en parle depuis tellement longtemps qu'on est quand même heureux de voir que ça avance. Je pense que même le ministre reconnaîtrait que ça n'est pas assez. C'est clair que le handicap que nous avons vis-à-vis d'entreprises allemandes dans ce domaine est tout à fait considérable. Donc il faut faire attention parce qu'on avait un certain nombre d'avantages concurrentiels par rapport aux Allemands en matière de coût du travail. On a même très largement perdu ça, avec les 35 heures et ce qui a suivi. Il faut faire attention à ce qu'on ne perde pas nos avantages en matière de coûts d'énergie, par exemple. J'alerte un petit peu sur ce sujet. L'Allemagne a des coûts d'énergie qui sont élevés, c'est un avantage concurrentiel de la France, ne perdons pas cet avantage. Et puis il y a l'aspect des impôts de production, qui est bien connu, qui est documenté, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Le geste est positif, il est clairement insuffisant.
Oui. Non, mais parce que on voit qu'en revanche, vous disiez que donc, l'ensemble de votre recherche, elle est en France.
Oui, alors on a des antennes de recherche au Brésil auprès des clients, puisque certains clients demandent des produits spéciaux, mais le gros de notre R&D, la partie en particulier fondamentale, oui, est en France.
Oui, parce qu'il y a un crédit impôt recherche. Oui, il y a un crédit impôt recherche.
Oui, le crédit impôt recherche, qui est souvent critiqué, est absolument joue un rôle, puisque le crédit impôt recherche, le principe, c'est qu'on le justifie projet par projet, ce qui me paraît extrêmement sain, c'est-à-dire comme ça que nous prenons nos décisions. Donc je ne comprends pas pourquoi il est régulièrement attaqué. C'est un outil extrêmement
efficace. Parce que ça coûte cher à la collectivité.
Oui, mais les retombées sont assez majeures.
C'est un outil majeur. Oui.
Mais plus les groupes français deviennent internationaux ou mondiaux, comme j'ai expliqué que ça avait été ma stratégie pour Vallourec, plus il est important d'aider à ce que les sièges sociaux et le cœur du cœur, c'est-à-dire la recherche, restent en France.
Oui. L'évolution du cours du pétrole, comment est-ce que vous le voyez? Parce qu'on voit les tensions géopolitiques, et en même temps, on voit que les États-Unis n'ont plus besoin forcément du Moyen-Orient. Il y a aussi Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui nous dit que maintenant, il faut forer de plus en plus loin. Donc ça coûte de plus en plus cher. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du cours du pétrole et du marché pétrolier, pardon?
Alors, il faut malheureusement toujours avec le pétrole distinguer le court terme.
Oui, bien sûr,
c'est
pour ça que je dis le prix du pétrole, c'est à court terme, et puis le marché, c'est long terme.
À court terme, ce qui domine, c'est clairement les incertitudes sur la croissance mondiale. Donc, le coronavirus joue un rôle dans la faiblesse actuelle du prix du baril. Si on regarde un petit peu plus loin, c'est clair que l'ensemble de la chaîne de production a réduit ses coûts de production, c'est absolument certain, mais malheureusement a également réduit ses investissements. Et aujourd'hui, les compagnies pétrolières et gazières n'investissent pas assez. Je rappelle que le déclin naturel de la capacité de production des puits existants aujourd'hui sur la planète, c'est quelque part entre 5 et 6 % par an. C'est-à-dire chaque année, il faudrait en réalité ajouter 5 à 6 %. Et dans certaines zones, c'est bien plus. Au Moyen-Orient, c'est bien plus que ça. Donc il faut, juste pour maintenir la production, je ne parle même pas de la faire croître, or la demande croît, mais rien que pour maintenir la production, il faudrait investir beaucoup plus que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, en clair, pour donner des chiffres simples, le monde consomme 35-36 milliards de barils de pétrole par an. Les découvertes des dernières années, c'est-à-dire les nouvelles réserves qui ont été ajoutées aux réserves existantes, c'était quelque part entre 5 et 10 milliards par an. Juste l'année dernière, c'est remonté à 15 à 17 milliards à peu près. Mais c'est même pas la moitié de ce qu'on consomme. Donc on voit bien qu'il y a un sous-investissement. Et un jour ou l'autre, et je crois que c'est ce que Patrick Pouyanné rappelle régulièrement, ce sous-investissement va se payer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la planète va se trouver face à un manque. Et ceci n'est pas contradictoire avec...
Mais sauf si on a de moins en moins besoin d'énergie fossile.
Mais on parle pas de la même échéance de temps. La baisse de la consommation de pétrole, ou plutôt, ça va être 2035. Et avant qu'on arrive là, il y a encore 15 ans à passer. Et quand on en sera à 2035, le rythme de déclin aura été tel qu'il faudra continuer à forer. Donc aujourd'hui, l'inquiétude principale, c'est que l'équilibre entre l'offre et la demande, qui à court terme peut effectivement conduire à un affaiblissement du prix du baril, en réalité, à moyen terme, il n'est pas bien assuré.
D'accord. Et sur le... Et à court terme, c'est vraiment le coronavirus. Les interrogations sur la croissance mondiale, parce que aussi les tensions commerciales. Ouais. On a complètement oublié là pour l'instant. Coronavirus, vous êtes très présent aussi en Asie, sud-est asiatique. Est-ce que ça a un impact pour vous?
Non, il se trouve que nos usines sont dans une zone qui est entre Shanghai et Nankin, qui est très peu touchée par le virus. Quelques dizaines de cas signalés, pas plus de ça dans les villes où on opère. La seule difficulté, c'est que, comme vous le savez, il y a eu des vacances, c'est le nouvel an chinois, et une partie de nos collaborateurs n'ont pas eu le droit de revenir de leur lieu de vacances. Donc donc on tourne. Elle tourne à 80%, disons quelque chose comme ça. Voilà. Mm. Mais bon, c'est pas non plus dramatique, et on pense que, enfin, si, comme on l'espère tous, et comme ça semble commencer à se dessiner, l'épidémie diminue, on pourra rattraper la production perdue. Sur le premier trimestre, ça peut avoir un petit effet assez marginal en ce qui nous concerne.
15 mars prochain, c'est un moment, parce que vous quittez les rênes opérationnelles, en tous les cas, de Vallourec. REC. C'était Édouard Guinotte qui prend la succession. Oui. Il a été désigné. Donc, vous devenez président du conseil de surveillance.
Non, vous restiez aussi à la surveillance. Non, on respecte les règles de gouvernance.
Les règles de gouvernance. Il prend les rênes. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va changer, à votre avis?
Bah déjà, il y a un changement de génération. Il y a 15 ans de moins que moi. Je crois que c'est important que le management de sociétés qui sont engagées dans des évolutions de très long terme, et toutes les questions que vous m'avez posées montrent que vous avez bien la vision de ce que c'est que Vallourec. C'est un engagement à 10, 20, 30 ans. Quand on parle de l'hydrogène, c'est à 20 ans, 30 ans. Donc c'est important que le management ait du temps devant lui. Moi, je n'en avais plus. C'est pour ça que j'ai dit à mon conseil, puisque j'atteignais la limite d'âge bientôt, qu'il valait mieux me remplacer. Par ailleurs, Édouard est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de nos métiers et de nos marchés. Beaucoup d'expérience internationale. Il a opéré au Mexique, il a été longtemps aux États-Unis. C'est lui qui a construit toute la stratégie commerciale qui a accompagné le doublement de nos capacités, la décision que j'avais prise en 2010. Et là, ces dernières années, il a construit notre région Moyen-Orient, Asie. C'est lui qui a intégré notre usine chinoise et qui a très très bien réussi dans les batailles commerciales épiques que nous avons au Moyen-Orient avec nos concurrents pour répondre aux appels d'offres des grands acteurs. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup de métiers, de la jeunesse et de l'enthousiasme.
Lorsque vous voyez ce qui s'est passé pour Technip, qui donc s'était associé, nous avait vanté ici les mérites de cette association avec son homologue américain, donc nous expliquant que ça allait rester en France, en fait pas du tout, c'était parti en Angleterre, aux États-Unis, etc. Maintenant, il y a une partie qui revient en France. Pour quel avenir pour le capital de Vallourec? Donc, pour le coup, BPI était intervenu chez vous, mais en même temps, pour combien de temps la vocation de BPI, c'est peut-être aussi d'évoluer. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du groupe Vallourec sur le plan capitalistique?
Écoutez, moi je me suis attaché à ce que Vallourec reste une société indépendante, parce que je pensais qu'on en avait les moyens et que le capital humain, technologique, le savoir-faire...
Ça a été rendu possible grâce à la BPI.
Voilà, et donc ça a été possible grâce à deux actionnaires stratégiques, la BPI et Nippon Steel, notre partenaire technologique depuis plus de 40 ans. Je trouve que c'est un attelage qui effectivement n'est pas forcément pour une durée infinie, mais qui peut durer un certain temps, parce qu'il y a une logique à ce qu'un partenaire financier accompagne un partenaire industriel. Et en tout cas, je crois qu'on est en train de démontrer qu'effectivement, on a la capacité de rester indépendant. Après, je ne peux pas préjuger de l'avenir et du futur. Je crois que nos clients apprécient cette indépendance, apprécient le fait qu'on n'est pas dans la dépendance de groupes multidimensionnels et multimétiers. Le fait que nous soyons spécialisés, très centrés sur un type de métier, capable de délivrer la meilleure performance.
Niche,
sur ce métier. Une niche, clairement, c'est le cas. Mais c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup les clients. Donc, il faudra y réfléchir si jamais il y a dans le futur des business combination, comme on dit maintenant, garder cet esprit d'entreprise et cet esprit de niche technologique.
Merci beaucoup. Voilà un peu le testament de Philippe Crouzet, en tous les cas, pour Vallourec. Philippe Crouzet, donc le patron de Vallourec, avec toutes ces annonces, notamment sur l'augmentation de capital et puis sur cette année 2019 qui a signé le redressement quand même sur le fond de Vallourec. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un instant, c'est Nicolas Terry qui est le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui sera avec nous. Là, on change évidemment de registre. On parle des banques. Là aussi, il y a beaucoup de restructurations. On parle de la politique de Thomas. Et puis, on parle du financement des énergies fossiles. On voit ça dans un instant, parce que vous allez voir, il y a pas mal d'annonces.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Nicolas Terry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, le patron du Crédit Mutuel. Beaucoup d'annonces. Vous allez arrêter de financer des industries qui sont pollueuses, du moins dans vos nouveaux critères. Vous allez tout nous raconter. Pour l'instant, c'est Audrey Maubert qui nous présente l'actualité.
Avec ces chantiers, ce chantier des impôts de production, Bercy s'est engagé à les baisser, ce que réclament ardemment les industriels. Selon les informations de BFM Business, le gouvernement s'attaquera d'abord à la C3S. Ça représente 3,6 milliards d'euros, une suppression progressive à partir de 2021 et ce, sans contrepartie. Le cas Huawei Bouygues n'a pas encore tranché, mais il dit se réserver toutes les possibilités, y compris celles de potentiel recours pour préserver, dit-il, ses droits à l'équipementier chinois pour la 5G. Un commentaire, alors que Bouygues publiait ce matin ses résultats annuels, Bouygues a vu son bénéfice net reculer en 2019, pâtissant d'effets exceptionnels. Bouygues reste toutefois porté par des performances meilleures que prévu dans les télécoms. Com. L'impact de l'épidémie de coronavirus dans les performances des entreprises. Plusieurs illustrations aujourd'hui à la lecture des comptes annuels. Air France KLM estime à 150-200 millions d'euros le manque à gagner d'une suspension des vols vers la Chine entre février et avril. Schneider Electric, de son côté, redoute un impact négatif de 300 millions d'euros sur son chiffre d'affaires du premier trimestre. Il vise toutefois une compensation. Ensuite, son PDG Jean-Pascal Tricouard était ce matin dans Good Morning Business.
On a 25 usines en Chine et il y en a une qui est à Wuhan. On a 1600 personnes à Wuhan et je peux vous dire qu'on suit la situation comme le lait sur le feu. Mais globalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 80% de nos usines ont repris le travail. Globalement, nous, on estime que l'impact devrait être de 300 millions sur notre chiffre d'affaires, ce qui est à mesurer aux 27 milliards de chiffre d'affaires de Schneider, donc ce n'est pas complètement matériel. On estime qu'on aura du mal à récupérer ça en au deuxième trimestre, parce qu'il faudra du temps pour redémarrer les choses, et qu'on devrait être capable de résorber ce manque à gagner, entre guillemets, dans la deuxième partie de l'année, ce qui fait que l'impact sur l'année totale devrait être assez limité.
Le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricouard, ce matin sur BFM Business. Schneider Electric qui a touché un plus haut en séance ce matin, dopé par des résultats records pour 2019. Schneider fait mieux sur sa marge opérationnelle. On parle aussi d'Accor aujourd'hui, qui affiche un bénéfice net 2019 en hausse de 3,8% à plus de 464 millions d'euros. Des difficultés en Asie-Pacifique qui génèrent désormais un tiers de l'activité. Quant à l'impact du coronavirus, le PDG du groupe hôtelier Sébastien Bazin, votre invité Edwige ce matin dans Good Morning Business, le chiffre pour l'heure à 5 millions d'euros d'absence de redevances. Accor, une exposition mesurée en Chine, seulement 3% précisément de son chiffre d'affaires. Enfin, la croissance du PIB dans la zone OCDE ralentit à 0,2% au quatrième trimestre, 0,4% au trimestre précédent, selon les chiffres provisoires publiés il y a quelques minutes. Le PIB s'est fortement contracté au Japon, en Italie et en France, de moins 0,1% pour la France. On termine bien sûr avec le CAC 40 et ce recul à moins 0,15% à l'heure actuelle à 6101 points. On reste quand même à des plus hauts de l'année.
Merci Audrey Maubert pour toute l'info dans le RH. Dans à suivre, c'est Nicolas Terry, le patron du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tout en haut, vous savez, de la structure. Il va nous expliquer que les agences, ça a du bon, ça peut marcher, les taux bas, c'est formidable. On voit ça tout de suite, c'est juste après une page de pub.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est un mutualiste, un modèle peut-être qui marche. En tous les cas, il est là pour le démontrer. Nicolas Terry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est un peu nouveau, c'est la tête de pont du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, c'est combien d'agences?
C'est à peu près 2100 agences qu'on appelle des caisses de crédit mutuel, parce que c'est des banques de plein exercice, c'est notre originalité. Et puis c'est au niveau national 85 000 salariés, et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est 72 000 salariés. C'est à peu près 80% du groupe Crédit Mutuel.
Oui, et puis il y a quand même, en termes de points de vente, l'agence, c'est 4400
avec le réseau du CIC, notamment, qui est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Vous avez annoncé un prenet bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, pour ceux qui sont pas habitué peut-être au langage bancaire, de 14 milliards. 14 milliards et demi. Oui, 14 milliards et demi. C'est en hausse de 3,5%. C'est beaucoup.
Oui. C'est beaucoup.
Oui,
en fait,
ce
qui est intéressant, c'est qu'on a des taux bas, vous le savez, des taux négatifs, des taux plates. Le moment où le banquier s'enrichissait en dormant en disant « j'emprunte court terme et pas cher et je prête long terme et cher » est complètement terminé. Et ces résultats apportent la démonstration qu'on peut être en développement, qu'on peut être en conquête de clients, qu'on peut être en vente de produits diversifiés, même dans les métiers de la banque de détail. Et ce qui est pour moi très important, c'est qu'on est en hausse de 3,5% sur le chiffre d'affaires, mais surtout les réseaux de banques de détail en France et en Allemagne, puisqu'on est aussi installé en Allemagne, montent de 3,1%. Et notre plan stratégique, on en avait parlé la dernière fois que j'étais venu, s'était fixé comme objectif une hausse du chiffre d'affaires de 3% par an jusqu'en 2023. Et honnêtement, tout le monde nous avait dit « vous n'y arriverez pas, les taux négatifs, la concurrence font que ce n'est pas possible ». Et cette année, l'an 1 de notre plan stratégique montre qu'on peut être une banque de réseau, une banque de proximité, une banque territoriale et une banque rentable. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle.
Pourquoi ? C'est parce que simplement, vous n'avez pas distribué de dividendes, c'est pour ça ? C'est l'avantage du mutualiste ?
Non, ça c'est autre chose. Oui. Distribuer des dividendes, il faut avoir des bénéfices. Donc le fait qu'on mette en réserve 97% des résultats pour de l'investissement et du développement,
ça aide.
Mais c'est le deuxième étage de la fusée. La réalité, le premier étage, c'est quand même un résultat très positif, en hausse de 5% à 3,14 milliards d'euros.
Oui. Qu'est-ce qui fonctionne ? Parce que justement, certains disent il y a une surchauffe, par exemple, dans le crédit immobilier. On sait que toutes les banques, elles ont distribué des crédits immobiliers un peu à tout va, au point que le gouverneur de la Banque de France a dû dire stop.
Sur les crédits immobiliers. J'allais dire, en ce qui concerne le crédit mutuel, ouais, attention, j'espère que c'est pas la banque qui vous étouffe, mais sur le crédit immobilier, on a une situation assez raisonnable, puisque nos encours ont monté de 6,8% l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'on y fait attention, c'est vrai que nous sommes soucieux, et on le voit dans les statistiques de risque, d'avoir des clients qui sont solvables, qu'on peut accompagner. Notre objectif, c'est d'aider et d'accompagner les clients et surtout de leur permettre d'accéder à la propriété. Et quand je regarde, le comportement général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, je crois qu'on est dans une position saine. Et si je peux souligner un point, nous ne travaillons pas avec le courtage. Nous travaillons avec nos clients, nous développons nos affaires avec eux et dans une vision du crédit immobilier qui soit responsable, durable et favorable aux clients.
Pardon, on va mettre une petite page, on se rejoint juste après, pardon.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
On retrouve mon invité Nicolas Théry, donc le président du Crédit Mutuel. Pardonnez-moi cette espèce d'allergie soudaine à la climatisation qui a fait que j'ai provoqué cette crise. Nicolas Théry, on était sur l'immobilier, la surchauffe. Est-ce que pour vous, il y a une surchauffe ou pas ?
Il y a des endroits où, effectivement, il y a des tensions, ce qu'on appelle les zones de tension, notamment les grandes métropoles. Il y a aussi des endroits dans lesquels, malheureusement, le marché immobilier est à tonne, dans lesquels les prix de l'immobilier sont plutôt en baisse. Et nous sommes une banque territoriale qui intervient sur tous les marchés. Notre souci, c'est d'accompagner tous nos clients, qu'ils soient, à Forbach, à Saint-Quentin, à Arles, à Nantes ou à Paris. Et je pense que la situation est plus, équilibrée qu'on ne le décrit parfois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on garde notre attitude de banque de proximité. On veut continuer de financer nos clients dans les meilleures conditions pour eux. Et même avec les normes du Haut Conseil de stabilité financière, nous resterons attentifs à ça.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que nous continuerons de financer les demandes immobilières, que nous veillerons à nous adapter, peut-être en demandant aux clients de mobiliser plus leur épargne, de bien vérifier leur solvabilité, de vérifier la solidité de leur investissement. Et vous savez qu'au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tous les clients, quel que soit leur niveau de revenu, ont un conseiller attitré. Et donc, nous avons demandé à ce conseiller de leur faire le meilleur, leur procurer le meilleur conseil.
Oui, parce que justement, le gouverneur de la Banque de France, ce qu'il expliquait, c'est que, notamment par rapport aux petits revenus, il fallait sans doute faire attention, qu'il fallait respecter la norme des 33%, et donc ça excluait de facto un certain nombre de Français, de particuliers. Donc vous nous dites, non, on continue comme avant.
Non, je dis, on continue. Déjà avant, on était responsable. Vous regardez la hausse des encours, on a été raisonnable. Regardez les chiffres de risque que nous avons, ils sont aussi très raisonnables. Et effectivement, nous nous adapterons à ces normes. Mais pour moi, une des clés, c'est non seulement le taux d'effort, mais aussi le reste à vivre. Ce qui compte, quel que soit le niveau de revenu, c'est que le client ait ce qu'il faut pour vivre, pour faire face aux coups durs de l'existence s'il se présente, tout en assumant sa charge de remboursement. Et donc l'instruction qui est donnée au réseau, c'est effectivement de ne pas faire de prêt à plus de 25 ans, c'est effectivement de vérifier le taux d'effort, mais toujours avec le souci d'accompagner le client, et notamment cette notion fondamentale du reste à vivre.
Oui, le reste à vivre, vous avez raison, c'est important. Alors, juste une dernière question. Après, on passera sur la grande annonce que vous voulez faire sur le fait que le Crédit Mutuel va arrêter de financer des entreprises qui ont des projets d'investissement dans le charbon.
Oui.
On va y revenir. Juste sur la politique de taux bas menée par la Banque Centrale Européenne, il y a beaucoup d'interrogations. En ce moment, il y a des débats d'économistes en disant stop, il faut absolument arrêter cette politique monétaire qui est destructrice. D'autres, au contraire, qui disent c'est une occasion formidable pour les particuliers. Comment vous vous situez, Nicolas Théry ?
Je suis convaincu que les taux bas étaient nécessaires, qu'ils ont permis à l'Union européenne et à la zone euro de passer le cap de la crise et de l'instabilité financière. Après, une politique monétaire, je pense que sa grande qualité, c'est d'être adaptative, c'est d'être dans l'anticipation des circonstances et dans la préparation. J'ai vu que Christine Lagarde avait lancé une revue de la politique monétaire, que je trouve très intéressante, dans laquelle d'ailleurs elle intègre aussi la question climatique, ce que je trouve particulièrement bienvenu. Donc mon souhait, c'est qu'effectivement, cette politique de taux bas puisse s'adapter à l'évolution de l'environnement et retrouver un niveau normal. Et je pense que pour l'industrie bancaire, c'est important.
Oui, c'est même très, très, très important. Donc, en même temps, on voit que pour les particuliers, ça restitue un pouvoir d'achat absolument colossal.
Absolument. Et d'ailleurs, nous, on a eu depuis 2013 un million de renégociations et ça a provoqué une restitution de pouvoir d'achat de 7 milliards d'euros à nos clients.
7 milliards, c'est énorme.
Depuis 2013. Donc vous voyez, là-dessus, nous sommes effectivement en développement, effectivement rentables, mais aussi soucieux du client et on s'est adapté à cette période-là dans de bonnes conditions. Et ce qui est important, c'est qu'on nous avait dit, mais vous comprenez, les banques, même avec les taux bas, elles ne pourront pas résister, ce n'est plus rentable, etc. Et je crois que ces résultats 2019 du Crédit Mutuel de l'Alliance Fédérale montrent qu'on peut s'adapter, qu'on peut être fidèle à son métier, fidèle à ses clients et sociétaires, et toujours en développement.
Est-ce que vous êtes intéressé par HSBC qui vend sa filiale, l'ex-SF, sa filiale française ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'on a déjà un très beau réseau, notamment autour du CIC, dans les zones où l'ex-CCF HSBC France est installé, et que donc nous n'avons pas d'intérêt à compléter ce réseau.
Oui, mais ce qui est surtout absolument spectaculaire dans ce qui se passe, c'est que HSBC a racheté le CCF pour 11 milliards d'euros à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, ça ne vaut rien.
Ça vaudra le prix que acceptera de payer l'acquéreur.
Prix totalement cassé. C'est impressionnant quand même. Sur l'avenir de l'industrie bancaire, sur l'avenir des banques, j'imagine, Nicolas Théry, que ça vous interpelle.
Ça m'interpelle, mais ça me stimule aussi. Et je pense que le pari que nous faisons en ce qui nous concerne, qui est un pari de diversification, de proximité, de maîtrise des frais généraux, et finalement de réponse aux attentes, alors ça veut dire beaucoup de réformes, beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, mais je pense que c'est un pari gagnant, parce que je suis persuadé que nos clients ont encore besoin de conseils. Vous savez, finalement, quand vous êtes client, que vous allez voir votre conseiller bancaire, ou que vous le contactez par l'appli, ou que vous le contactez par email ou par téléphone, la vraie question à laquelle vous voulez une réponse, c'est « Et si vous étiez à ma place, que feriez-vous ?» Et je pense, et c'est pour ça qu'on met tant d'efforts sur la formation et la rapidité du conseil, cette question-là, elle reste fondamentale. Et je pense que, par rapport à des réseaux qui ont parfois joué une logique purement quantitative, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est une différence de traitement.
Oui, d'accord, on comprend mieux. Alors, à partir de maintenant, depuis ce matin, le Crédit Mutuel, donc, arrête de financer, c'est le gel immédiat, je vous cite, des soutiens financiers aux entreprises identifiées comme développement de nouvelles capacités charbon. Ça en concerne combien et pourquoi vous faites ça ?
On fait ça parce que je pense que le sens du mutualisme, c'est d'être non seulement au service de ses clients et sociétaires, mais aussi au service de la société. Vous savez, on ne va pas revenir dans l'histoire du mutualisme, mais fondamentalement, c'est une création collective d'intérêts communs pour contribuer à l'amélioration de l'environnement territorial, économique, mais aussi aujourd'hui climatique. Et je pense que dans les grands défis que nous avons, il faut que les entreprises s'impliquent, il faut que les entreprises s'engagent. Et je vois d'ailleurs dans le Crédit Mutuel, nos salariés, nos élus mutualistes sont très en soutien là-dessus. Et par exemple sur le charbon, on sait très bien le rôle que le charbon joue dans le réchauffement. On a défini une doctrine très simple. On a d'abord vendu l'intégralité des positions de marché, gestion d'actifs, assurance.
Ça représentait quoi ?
Marché.
C'était important ?
Ça représentait plusieurs centaines de millions d'euros. Ouais. Et donc, nous les avons vendus parce que nous avons considéré que notre rôle, c'était d'accompagner la transition. Et ce que nous disons aux entreprises qui utilisent le charbon, c'est nous sommes prêts à vous accompagner si vous avez un plan crédible, vérifiable, concret, de transition vers des sources d'énergie non carbonées. Et je pense que cet enjeu, c'est vraiment l'enjeu de la banque partenariale. C'est de dire, vous savez, on a par exemple...
Ça concerne combien d'entreprises chez vous?
Alors, il y a une liste qui est homologuée au niveau international de 417 entreprises qui sont, j'allais dire, à vocation charbonnière. Et donc, nous avons un certain nombre de ces entreprises qui étaient clients, et donc nous allons les accompagner dans cette transition.
Mais par exemple, j'imagine, parce que le charbon est très utilisé en Allemagne, vous êtes présent en Allemagne, vous l'avez souligné. Ouais. Donc là, j'imagine qu'il y a des entreprises qui, il y a quelques entreprises qui sont touchées quand même, non?
Exactement. Vous savez, vis-à-vis des entreprises, ce qui compte, c'est d'avoir un banquier qui a à la fois un langage clair et qui s'engage sur le long terme. Ouais. Et nous, on leur dit, voilà, notre politique, parce que nous considérons que c'est un élément de risque, considère que pour la banque, continuer à financer ses activités, c'est aussi un élément de risque. Et donc, on leur propose un contrat de confiance, pour reprendre une vieille expression, qui est de dire, ben voilà, nous, à titre de gestionnaire d'actifs, nous sortons du charbon. Et à titre de banquier, eh bien, nous cherchons à vous accompagner si vous avez un plan de transformation. Ce qui est sûr, c'est que nous ne financerons plus des investissements d'accroissement de production charbon. Et nous allons faire de même sur ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire gaz de schiste ou pétrole de schiste, les bitumineux, les hydrocarbures lourds, ou l'exploitation
et,
de l'arc.
Et au total, encore une fois, non, pardonnez-moi d'insister, mais c'est juste pour savoir si c'est un peu de la com, parce qu'aujourd'hui, c'est très... Voilà, c'est très dans le discours ambiant, c'est très fashion, comme on dit. Ou est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est un vrai engagement qui peut éventuellement vous couper de beaucoup de clients? Vous voyez ce que je cherche à essayer de mesurer l'ampleur que ça a pour le Crédit Mutuel.
Eh bien, pour être très concret, par exemple, nous avons cédé plus de 400 millions de positions de placement que nos filiales de gestion d'actifs d'assurance et de marché avaient. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'avons plus d'exposition charbon sur nos filiales de gestion. Après, le Crédit Mutuel honore sa signature. Il y a des entreprises que nous avons financées. Nous honorons la signature des contrats de prêts que nous avons faits. Et nous continuerons, mais de manière extinctive. Et pour les demandes futures, eh bien, nous aurons un dialogue sur les plans d'évolution. Et tout à l'heure, vous receviez Philippe Crouzet.
Oui, c'est la question qui me démangeait. Est-ce que, par exemple, Philippe Crouzet, Valourec, est-ce que vous allez continuer à les financer ou pas?
Moi, l'horizon du tuyau, et notamment vis-à-vis de fluides corrosifs, eh bien, c'est le CO2 et l'hydrogène. Et donc, voilà un chef d'entreprise, et je voudrais le saluer chaleureusement parce qu'il va bientôt quitter ses fonctions, qui dit, ben voilà, pour la préparation de l'avenir de mon entreprise, nous allons passer d'une logique d'hydrocarbures à une logique d'autres fluides. Et bien là, typiquement, c'est un plan sur lequel nous aimerions et nous apprécions de discuter.
Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui?
Absolument.
Voilà, comme ça, c'est quelque chose qui est en train de se répandre dans l'industrie bancaire. Hein, donc, on voit cette volonté de s'engager sur la transition écologique.
Mais ça se répand, mais moi, il y a une chose à laquelle je crois, c'est le mutualisme de la preuve et l'entreprise de la preuve. Parce que, comme vous dites, quand on fait que de la com, c'est pas ça qu'il faut. Donc nous, c'est pour ça qu'on a souhaité communiquer sur des engagements concrets et, vous voyez, sur des chiffres clairs et sur des initiatives très concrètes.
Est-ce que vous allez parler d'industrie bancaire? Je mentionnais HSBC France, en tous les cas. On voit quand même que il y a une industrie bancaire qui est confrontée à des défis sociaux absolument gigantesques. Je recevais le président de la Fédération bancaire européenne, le français, Frédéric Oudéa. Est-ce que vous, les mutualistes, ils risquent aussi d'avoir des licenciements parce qu'après tout, ça existe partout?
Alors, nous, on a dit, on n'a pas de plan de fermeture d'agence.
D'accord.
On ne veut pas faire de plans sociaux. Et on investit, notamment, on consacre 6,6% de la masse salariale à la formation. Et ce qu'on constate, c'est que ça marche. Et je vais vous donner un exemple concret. Évidemment, il y a besoin de moins de salariés au guichet. Eh bien, nous proposons à ces salariés de prendre un portefeuille de clients et de devenir conseiller bancaire. D'où la formation, d'où les efforts sur l'intelligence artificielle pour les accompagner et les aider. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs centaines de nos salariés ont fait l'effort, ça marche, ils ont des qualités relationnelles et une expérience formidable, et ça marche.
Est-ce que vous croyez, comme ce que fait la Caisse d'épargne, votre grand concurrent, est-ce que vous croyez dans ces conseillers entrepreneurs?
Écoutez, je ne vais pas...
Ou c'est un gadget?
Je ne vais pas critiquer ou
juger. Bah allez-y quand même. Répondez à ma question. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que le Crédit Mutuel ne le fera jamais.
Pourquoi?
Parce que nous croyons que les clients veulent avoir des conseillers qui sont à la fois proches, cohérents, qui les connaissent bien et qui leur donnent un conseil très compétent. Nous ne donnons pas de rémunération variable à nos conseillers ou à nos dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'ils conseillent bien les clients. Un réseau qui ne serait rémunéré qu'aux variables est, à mon avis, en contradiction avec les valeurs que nous cherchons à porter vis-à-vis des clients. Donc voilà la raison très concrète. Donc ce n'est pas un jugement, j'allais dire, de ex cathedra. C'est bien l'idée de dire qu'on ne peut pas avoir un réseau de qualité si on fait de la rémunération exclusivement à l'acte commercial.
Nicolas Thierry, je voudrais revenir un instant sur l'immobilier, maintenant que j'ai retrouvé mes esprits. Parce que vous nous aviez dit la dernière fois que vous étiez venu, quelque chose que j'avais trouvé très intéressant en disant on ne mesure pas l'impact que ça va avoir sur le pouvoir d'achat des Français, l'effondrement, c'est même pas la baisse, de l'immobilier dans certains centres-villes ou certaines villes en province. Le Crédit Mutuel est très présent, évidemment, en province. Est-ce que la politique du gouvernement, on voit qu'il y a eu une volonté de revitaliser les centres-villes, est-ce que ça peut changer un tout petit peu la donne ou vous restez extrêmement inquiet sur l'impact sur le patrimoine des Français de l'effondrement de l'immobilier dans les villes de province?
Oui,
alors, dans les petites villes, on ne parle pas des métropoles.
Les villes moyennes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que il y a des petites villes de province, villes moyennes, qui marchent très bien si elles sont à plus de 35-40 kilomètres d'une grande métropole. Parce que là, on retrouve tous les commerces, ce sont de vrais centres de décision, ce sont des vrais centres de vie. Et puis, on a comme un effet d'attraction spatiale de la part des métropoles, c'est un peu basique de le dire, ou un effet quelquefois d'effondrement lié à la fermeture de quelques usines ou d'activités. Et là, les effets sur les services public, sur les prix du logement, sur les écoles, sur l'accompagnement, sont très considérables. Et on est en période d'élection municipale, et moi, mon souhait, c'est que on est au niveau politique plus d'attention pour les territoires et pour cette vie.
Oui, mais on voit bien que c'est au cœur des débats, quand même, ça, sur la revitalisation de l'Hexagone. Exactement. Et des... Ouais. Mais vous ne voyez pas, vous observez pas encore d'amélioration, non?
Non. Parce que notamment, je pense que ça passe par des schémas d'aménagement du territoire beaucoup plus ambitieux et contraignants. Ouais. Par exemple, sur les transports collectifs, sur la capacité à finalement faire rentrer l'ensemble du périmètre d'une métropole dans une dynamique positive. Et aujourd'hui, il y a des villes qui le font très bien. C'est pour ça que je crois, moi, au niveau municipal et au niveau de la décentralisation, et d'autres où, malheureusement, ça patine plus. Et donc, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ce qui me concerne pour les élus locaux. C'est un métier difficile. Et j'espère que dans cette campagne municipale, c'est bien là-dessus que sera le débat. C'est-à-dire la capacité à construire notamment un système de transport et de logement qui favorise le développement collectif.
Mais puisque vous dites ça, encore un mot sur les élections municipales, on voit bien que l'enjeu écologique, il est au cœur de ces élections municipales. Est-ce que vous avez des demandes de villes, enfin de municipalités plutôt, qui est sur justement comment financer leur transition écologique, comment financer de nouvelles infrastructures? Est-ce que vous voyez que ça bouge ou pour l'instant on est encore de la politique et dans une campagne électorale?
Non, ça bouge. Ça bouge. Et vous voyez, lundi, par exemple, je vais à l'inauguration d'un bus à haut niveau de service à Strasbourg, exclusivement électrique, qui va permettre de retirer effectivement des voitures de gens qui venaient travailler en voiture. Et nous, on est vraiment dans l'idée, avec les collectivités, d'être dans le partenariat. Nous sommes souvent un grand employeur, et donc de favoriser ces modes de déplacement et d'avoir des plans de déplacement d'entreprise, d'encouragement du vélo, d'encouragement des transports doux pour nos salariés. Et ça, j'y crois fondamentalement. C'est de construire des écosystèmes entre élus locaux, banquiers, entreprises, commerçants.
2020, ça se présente comment après cette bonne année 2019?
Écoutez, j'espère de manière encourageante.
Oui, mais on voit que c'est une conjoncture difficile. Il y a quand même d'impact sur la croissance économique mondiale du coronavirus.
On voit bien qu'il y a des inquiétudes. Oui. Ce qui est sûr, on voit bien des tensions aujourd'hui chez un certain nombre de nos clients. Pour l'instant, elles me paraissent conjoncturelles. Je ne vois pas de point de basculement pour l'instant structurel. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes très attentifs, notamment à des effets de bulle ou d'emballement sur, par exemple, l'immobilier, mais aussi sur un certain nombre de valeurs d'entreprise.
Ça veut dire quoi, sur valeur d'entreprise?
Ça veut dire que les prix payés dans les activités de capital investissement me paraissent quelquefois très élevés.
Oui, donc là aussi, vous pensez qu'on aura un retour de bâton assez violent?
On fait très attention.
Vous n'êtes pas le premier à me dire, c'est pour ça que je vous interpelle, parce que là, je me dis, attention, clignotons.
C'est toujours pareil, une politique monétaire a de grands avantages court terme, mais après, elle peut avoir des défauts d'encouragement de bulle et il faut être vigilant.
Merci beaucoup Nicolas Thierry. Nicolas Thierry, donc le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci d'avoir été avec nous, toutes ces perspectives. Et je trouve que notamment sur l'immobilier, on voit bien l'importance que les mutualistes ont dans l'Hexagone. Et donc là... Je vais suivre ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve demain, les best-of de l'Orage. On se retrouve dimanche, BFM Politique. Et puis, évidemment, lundi pour la matinale, l'interview de la matinale. Et puis pour l'Orage, 12h-13h. Bonne journée et bon week-end.